VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du jeudi 6 janvier 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, la violence s'accroît dans le sud et l'ouest, avertit Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Et en RDC, l'ONU signale près de 400 exécutions extrajudiciaires en novembre 2021.
En Tunisie, plusieurs autres personnalités politiques convoquées par la justice, dont Rached Ghannouchi d'Ennahda, selon des médias sociaux.
Moscou et ses alliés envoient une force de maintien de la paix au Kazakhstan, en proie aux émeutes.
Ici aux États-Unis, un an après l'assaut du Capitole, le président Joe Biden pointe la responsabilité de son prédécesseur, Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport avec Yacouba Ouédraogo sur la CAN, qui commence le 9 janvier au Cameroun. Pour l'instant, le journal.
Les actes violents commis au Mali par des éléments extrémistes se développent dans le sud et l'ouest du pays. C'est ce qu'a affirmé mardi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans une lettre remise au Conseil de sécurité. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
Dans ce rapport d'une douzaine de pages, le patron de l'ONU estime que les groupes armés considèrent comme un succès le départ récent des forces françaises du nord du pays. Dans l'ensemble, les éléments extrémistes violents ont continué à étendre leurs activités vers le sud et l'ouest du pays, écrit Antonio Guterres. Cette campagne est probablement motivée par des succès perçus, notamment le repositionnement des forces internationales loin de la région de Kidal, précise Monsieur Guterres, en faisant allusion au retrait militaire français de l'opération Barkhane de plusieurs villes du nord malien. Antonio Guterres s'inquiète par ailleurs de la prolifération des attaques impliquant des engins explosifs improvisés. Selon lui, elles visent les routes d'approvisionnement et entravent les opérations de la MINUSMA, ajoutant que ces attaques avec ces explosifs ont fait l'an dernier au moins 15 morts et 121 blessés.
Au Nigeria, le gouvernement a officiellement inscrit hier comme groupe terroriste les gangs criminels qui écument le nord-ouest du pays et s'y livrent notamment à des enlèvements de masse depuis des années. Cette qualification implique des sanctions plus dures prévues par la loi sur la prévention du terrorisme pour les membres de ces gangs, leurs informateurs et leurs soutiens.
En République démocratique du Congo, près de 400 exécutions extrajudiciaires ont été recensées en novembre, dont plus de 10% commises par les forces de sécurité. Les autres sont attribuées à des groupes armés, selon un rapport de l'ONU. Le point avec Rosine Munezero.
Sur l'ensemble du territoire, les agents de l'État sont responsables de 39% des violations documentées, dont les exécutions extrajudiciaires d'au moins 40 personnes. 24 hommes, 9 femmes et 7 enfants, détaille le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC dans son rapport mensuel. Les autres 61% des violations ont été commises par des combattants de groupes armés, avec des exécutions sommaires d'au moins 345 personnes. La grande majorité de ces violations ont été commises dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, du Tanganyika et du Sud Kivu, toutes situées dans l'est du pays. Le Nord Kivu et l'Ituri sont depuis mai sous état de siège pour tenter de mettre fin à l'activité des groupes armés. Cette mesure donne les pleins pouvoirs aux militaires mais n'a pas encore permis de stopper les exactions des groupes armés qui sévissent dans la région depuis plus de 25 ans.
Va-t-on vers une décrispation entre Alger et Paris? Après 3 mois d'absence, l'ambassadeur d'Algérie reprendra ses fonctions à Paris ce jeudi, un geste qui devrait mettre un terme à une grave crise diplomatique avec la France à la veille du 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Le point avec Abdourahmane Dia.
Dans un communiqué, la présidence algérienne indique que le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Amtar Daoud, qui reprendra ses fonctions à Paris ce jeudi 6 janvier. Alger avait rappelé son ambassadeur en octobre en réaction à des propos relayés par le journal Le Monde du président français Emmanuel Macron qui affirmait que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. devant des jeunes, dont des descendants de harkis, de colons et de militants de l'indépendance algérienne. M. Macron avait aussi questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Alger avait, dans un autre signe de protestation, interdit le survol de son territoire aux avions militaires français desservant le Sahel. Le 9 novembre, M. Macron avait fait savoir via un conseiller qu'il regrettait les polémiques et les malentendus et assurait avoir le plus grand respect pour la nation algérienne et son histoire. Une déclaration saluée par le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a invité le roi du Maroc, Mohamed VI, à effectuer une visite d'État en Allemagne afin de sceller un nouveau partenariat entre les deux pays après une crise diplomatique qui a gelé les relations bilatérales, selon le cabinet royal à Rabat. Le mois dernier, le royaume chérifien avait fait savoir qu'il envisageait de relancer la coopération bilatérale avec Berlin après des déclarations positives et constructives du nouveau gouvernement allemand.
Rabat avait suspendu tous ses contacts avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc le 1er mars en raison de malentendus profonds avec Berlin. Parmi les points de friction figuraient la position de l'Allemagne sur le Sahara occidental, critique de la décision américaine de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé, mais aussi la mise à l'écart de Rabat dans des négociations sur l'avenir de la Libye lors d'une conférence organisée à Berlin en janvier 2020.
Par ailleurs, le Maroc et la Chine ont signé ce mercredi une convention qui scelle leur partenariat dans l'ambitieux projet stratégique chinois des nouvelles routes de la soie. Elle a pour objectif de favoriser l'accès au financement chinois pour réaliser de grands projets au Maroc et de faciliter les échanges commerciaux, la création de joint ventures dans les secteurs industriels et énergétiques, la recherche et la coopération technologique, a précisé l'agence de presse du Maroc.
En Tunisie, la justice a décidé ce mercredi de juger 19 personnalités politiques dont le chef du Parlement et président du parti d'inspiration islamiste Ennahda, Rached Ghannouchi, et l'ancien président Moncef Marzouk pour des infractions électorales selon des médias locaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un an après l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021, le président américain Joe Biden dénoncera ce jeudi, dans l'enceinte même du Congrès américain, la responsabilité particulière de son prédécesseur Donald Trump dans ce chaos, a fait savoir mercredi sa porte-parole, alors que le ministère de la Justice a promis de poursuivre tous les participants, quel que soit leur statut.
13 personnes, dont 7 enfants, sont mortes dans un incendie touchant un petit immeuble d'habitation en plein centre de Philadelphie, en Pennsylvanie, dans l'est des États-Unis. Les détails avec Ginny Kapumbu-Villa.
C'est sans aucun doute l'un des jours les plus tragiques de l'histoire de notre ville. La perte de tant de personnes d'une manière aussi tragique, a déclaré le maire de Philadelphie, Jim Kinney. Les pompiers de Philadelphie ont atteint les lieux tôt le matin et ont dû affronter un feu intense provenant du deuxième étage de l'immeuble qui en compte 3. Selon lui, il a fallu près d'une heure pour maîtriser le feu. L'incendie a eu lieu dans un quartier résidentiel où se trouvent les grands musées de Philadelphie. Plusieurs fenêtres sont totalement calcinées, ainsi qu'une partie du toit. Le bilan partiel est de 13 morts, dont 7 enfants. Selon le représentant des pompiers Greg Murphy, 8 personnes ont réussi à évacuer les lieux et 2 autres ont été hospitalisées. Les pompiers et la mairie ont annoncé qu'une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Selon lui, il y avait 4 détecteurs de fumée, mais aucun ne fonctionnait lorsque le feu a commencé.
Moscou et ses alliés de l'OTSC, Organisation du Traité de Sécurité Collective, ont annoncé ce jeudi l'envoi d'une force collective de maintien de la paix au Kazakhstan, comme l'a demandé cette ex-république soviétique secouée par des émeutes qui ont démarré dimanche après une hausse du prix du gaz et où a été décrété hier soir l'état d'urgence. Au moins 8 membres des forces de l'ordre et militaires ont été tués.
Et maintenant, comme promis, Yacouba Ouédraogo et notre page sport.
Bonjour à tous. Le Sénégal, qui prend part à la Coupe d'Afrique des Nations, compte 3 cas du Covid-19 détectés dans son effectif. Selon un responsable du ministère sénégalais des Sports, il s'agit de Saliou Siss, Loum Ndiaye et Habib Diallo, en plus d'autres cas suspects, ajoutant que les Lions testés positifs doivent être mis en quarantaine. Le Sénégal, qui n'a jamais gagné la CAN, a raté le coach en finale en 2002 contre le Cameroun et en 2019 contre l'Algérie. Les Lions, menés par l'attaquant de Liverpool Sadio Mané et le gardien de but de Chelsea Édouard Mendy, débuteront leur compétition face au Zimbabwe le 10 janvier. Nous continuons dans notre lancée sur la présentation des différentes équipes qui prennent part à la CAN Cameroun 2021 qui débute ce dimanche 9 janvier. Basé à Garoua, le groupe D comprend l'Égypte, la Guinée-Bissau, le Soudan et le Nigeria. Qui sont ceux qui peuvent arracher les deux places qualificatives pour les huitièmes de finale? Élément de réponse avec Bagassi Koura.
C'est l'équipe la plus titrée du continent avec 7 trophées en 25 participations et une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte est une habituée de cette compétition, mais à faim, car son dernier sacre remonte à 2010. À l'époque, les pharaons ont aligné 3 titres de suite, 2006, 2008 et 2010. Depuis, plusieurs joueurs se sont succédés en équipe nationale sans que l'Égypte ne réussisse à accrocher une nouvelle étoile à son maillot. Cette génération, amenée par Mohamed Salah, double ballon d'or africain, a déçu à domicile en 2019, s'inclinant en quart de finale face à une modeste mais combative équipe d'Afrique du Sud. Une frustration qui, jusqu'ici, est restée au travers de la gorge des Égyptiens. N'empêche, les pharaons font partie des favoris de cette CAN 2021 et devront cette fois-ci aller chercher le trophée loin de leur terre. Le coach Carlos Queiroz a bâti son équipe autour de talents locaux, puisés dans des clubs comme Al Ahly, 10 fois vainqueur de la Ligue des champions CAF, et le Zamalek. Bien évidemment, des cadres et stars comme Mo Salah et Trezeguet tenteront de pousser leur équipier à se surpasser après une phase éliminatoire modeste, 3 victoires et 3 nuls. Oui, 19 phases finales de CAN, 3 trophées dont le dernier remonte à 2013 en Afrique du Sud. Ces statistiques témoignent du statut mitigé du Nigeria, le plus souvent annoncé comme favori dans les différentes CAN, mais qui peine à assumer ce rôle. Ces Super Eagles ont réussi une phase éliminatoire sans aucune défaite, 4 victoires et 2 matchs nuls. Ils devront cependant se passer de leur attaquant du club italien de Napoli, Victor Osimhen, pas encore remis de plusieurs fractures au visage et qui a récemment contracté le Covid-19. En plus d'Osimhen, le Nigeria fera sans Emmanuel Dennis, ailier de Watford, que son club a refusé de libérer car ayant reçu tardivement la demande de la fédération nigériane. Des absences vite comblées par des remplaçants de qualité comme Henry Onyekuru de Olympiakos et Peter Olayinka du Slavia Prague. Pour le reste, le Nigeria se présente au Cameroun avec des cadres comme Ahmed Moussa ou encore Samuel Chukwueze, le nouveau sélectionneur Augustine Eguavoen qui a pris ses rênes de l'équipe en décembre à moins d'un mois de la compétition en remplacement de Gernot Rohr. Devra mieux faire que la 3e place enlevée par le Nigeria lors de la précédente CAN en 2019 en Égypte.
Merci Bagassi. La Guinée-Bissau et le Soudan voudront jouer les troubles faites dans cette poule D. Nous les découvrons avec Abdourahman Dia.
Depuis qu'elle a goûté à la CAN pour la première fois en 2017, la Guinée-Bissau fait dans la régularité et jouera sa 3e CAN d'affilée. Les Osturtus se sont qualifiés pour Cameroun 2021 en finissant 2e de leur groupe devant le Congo grâce à 3 victoires et 3 défaites sur les 6 journées des éliminatoires. En 3 CAN, les Bissau-Guinéens n'ont pas encore franchi le premier tour et rêvent donc d'atteindre pour la première fois les matchs à élimination directe, un objectif qui pourrait être difficile à réaliser avec 2 cadors égyptiens et nigérians dans ce groupe D. Fondée depuis 1936, l'équipe nationale du Soudan est l'une des plus vieilles d'Afrique, même si elle peine à s'imposer sur le plan continental. Avec un seul sacre datant de 1970, le Soudan et ses 9 participations en phase finale de CAN est conduit par un sélectionneur local, Burhan Tia. Ce dernier est à la tête de l'équipe depuis mi-décembre, succédant au Français Hubert Velu de remercier. La marque de fabrique de cette sélection soudanaise, des joueurs locaux peu connus qui pourraient échapper à toute tactique adverse. À défaut de passer le premier tour, les crocodiles du Nil pourraient jouer les troubles faits dans cette poule D, eux qui ont quand même gagné 4 de leurs 6 matchs en éliminatoire contre seulement 2 défaites.
Merci Abdou. C'est ici que se referme notre page du jour consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Cameroun a déployé donc des troupes et des véhicules blindés dans les villes qui vont accueillir les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations dans sa région troublée du sud-ouest. Le pays accueille le plus grand tournoi de football du continent à partir de dimanche. Mais les séparatistes anglophones ont menacé de perturber le déroulement des matchs. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Yakuba Ouedraogo.
Les habitants des villes de Boya et Limbé, dans le sud-ouest du Cameroun, affirment qu'au cours des 2 dernières semaines, il y a eu une augmentation notable des troupes et des camions militaires dans les rues. Fabrice Toby, 21 ans, étudiant à l'université de Boya, affirme que la sécurité est de plus en plus visible.
J'ai été surpris par le nombre de voitures blindées et les soldats venus en renfort à Boya. Il est très difficile de partir d'un quartier à l'autre sans rencontrer des militaires ou des forces de sécurité. Dans les marchés, même sur le campus universitaire, ils sont partout. Ils font les contrôles. Il est très difficile de sortir sans être contrôlé.
L'armée camerounaise a confirmé que des troupes ont été déployées à Boya et Limbé pour protéger les joueurs, les officiels et les fans. Un porte-parole a refusé de commenter le nombre de soldats et de véhicules blindés déployés. Les villes du sud-ouest accueilleront des matchs de groupe pour les équipes de Gambie, du Mali, de Mauritanie et de Tunisie. Les séparatistes anglophones ont juré de perturber la compétition. Tapang Ivo, porte-parole du groupe séparatiste autoproclamé Force de défense de l'Ambazonie.
Nous avons promis de combattre les militaires camerounais partout où ils sont présents sur tout le territoire d'Ambazonie, que ce soit pendant les matchs de la CAN que nous avons interdits ou après, nous continuerons à les combattre bec et ongles. Nous voulons éviter une situation où les visiteurs seront pris en deux feux. Nous déconseillons vivement la CAN en Ambazonie pour des raisons de sécurité. La CAN ne devrait pas se tenir là où il y a la guerre.
Au cours des 2 derniers mois, au moins 6 attaques ont été signalées à Boya. Les séparatistes ont revendiqué des attentats à la bombe de novembre et décembre contre l'université de Boya et le grand marché Sopo de la ville qui ont fait au moins 14 blessés. Le gouvernement de la région du sud-ouest, Bernard Okalia Bilahi, a déclaré que les civils devraient dénoncer tout suspect se cachant dans leur communauté.
Nous continuerons à appeler la population à la vigilance. Vous savez ce qui s'est passé au grand marché Sopo. C'est la population elle-même qui a saisi le sac qui contenait les explosifs et a appelé les gendarmes pour qu'ils viennent le détruire.
D'après le gouverneur Okalia Bilahi, les résidents et les visiteurs ne devraient pas avoir peur des menaces des séparatistes. Selon lui, les séparatistes avaient déjà fait des menaces similaires lorsque Limbé et Boya ont accueilli des matchs du championnat d'Afrique des Nations sans aucun incident il y a un an.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le Parlement réuni en congrès s'apprête à réviser la Constitution pour permettre que l'état d'urgence sanitaire puisse être prolongé sur 90 jours et non sur 20 jours comme actuellement. L'opposition et la société civile estiment que c'est une manœuvre du pouvoir pour effectuer des changements importants dans le texte fondamental. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'initiative qui a été prise par le gouvernement vise essentiellement à faire passer l'état d'urgence de 20 jours à 90 jours. À cause de la COVID-19, en effet, le gouvernement est obligé de se réunir pour proroger le couvre-feu et le Parlement doit aussi se retrouver pour l'adopter. ce qui peut paraître normal en démocratie. Mais les opposants estiment que cette manœuvre peut bien cacher une ambition du gouvernement de rester au fauteuil. Clément Mirassa est le président de la Fédération de l'opposition congolaise.
Qu'il s'agit de prolonger ou quoi, nous sommes foncièrement contre. Cette raison sur la Covid, j'ai trouvé ça comme un prétexte. Le président Sassou ne rendrait aucun service, ni au pays, ni à son fils, si ce que j'entends à travers les réseaux dans l'opinion était fondé. La présence de la République, pour y accéder, il y a bien une procédure qui est décrite dans la Constitution.
Georges Fouti Goma, porte-parole du parti Uni pour le Congo, le parti de Paulin Makaya, garde de mauvais souvenirs du changement de la Constitution et se dit sidéré.
Nous sommes sidérés à entendre tout cela sur le projet de révision de la Constitution. Mais souvenez-vous qu'en 2015, lorsque nous avons marché de par le président de l'UPC, Paulin Makaya, c'était pour dire non au changement de la Constitution du 20 janvier 2002. Donc on ne peut pas vouloir du but en blanc changer, réviser la Constitution de la sorte. Nous pensons qu'il y a quand même une malice autour de cette révision de 20 jours à 90 jours.
Appelant les esprits au calme, le constitutionnaliste Vivien Manangou soutient que le gouvernement aurait pu agir autrement.
Il suffisait simplement d'adopter une loi de santé publique et dans cette loi, on prévoyait l'état d'urgence sanitaire avec un délai qui pouvait excéder le délai constitutionnel. Partant du principe que la Constitution elle-même renvoie les questions liées aux libertés et les questions liées à la santé à la loi. Et donc cette loi allait prévoir des dispositions qu'en cas d'état d'urgence sanitaire, le délai pouvait excéder les 20 jours tels que prévu par l'article 157. Donc on n'était pas obligé de modifier la Constitution. Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé en France, l'état d'urgence sanitaire a été décrété non pas sur la base de la Constitution, mais sur la base du Code de santé publique qui est une loi.
Vendredi, le Parlement réuni en Congrès devait se prononcer sur cette révision constitutionnelle. Et selon les sources bien renseignées, il n'y a que le prolongement de 20 à 90 jours qui est inscrit comme point en examen. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
La Côte d'Ivoire vient d'enregistrer ses premiers cas du variant Omicron. L'Institut Pasteur a annoncé l'existence de 78 cas positifs dans le pays. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Boys.
78 cas positifs au variant Omicron du COVID-19 ont été détectés dans le pays. L'annonce a été faite par la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, professeur Mireille Dosso.
Sur 134 échantillons testés, on a eu 78 échantillons positifs pour le variant Omicron. Dans la période où nous sommes, il ne faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il ne se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du COVID.
Et quand on tousse et qu'on a de la fièvre, l'Institut Pasteur donne un seul conseil.
Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage. Ça ressemble à la grippe, au signe de la grippe, mais c'est le COVID.
Concernant le cas des enfants, le professeur Mireille Dosso a fait cette précision.
Tous les enfants peuvent être contaminés par le SARS-CoV-2 comme n'importe quel virus respiratoire. Mais dans les premières phases, les enfants étaient moins concernés par la maladie, faisaient moins la maladie. Donc, à l'heure actuelle, les enfants sont porteurs de ce COVID-là, de ce SARS-CoV-2, mais il y a un petit nombre seulement qui fait la maladie. Maintenant, concernant les vaccins chez les enfants, ce que je sais, c'est que les doses qui sont en Côte d'Ivoire sont des doses pour les adultes, parce qu'il y a des doses particulières moins dosées pour les enfants.
Les scientifiques recommandent de se faire dépister face à ces signes. Professeur Ouattara Soualio, allergologue et pneumologue.
Le nez qui coule ou bien qui est obstrué, on peut avoir mal à la gorge, on peut avoir une fièvre avec des maux de tête, des céphalées, et on peut même avoir des courbatures le sujet est épuisé et il peut même avoir une toux qui s'associe.
Le professeur Ouattara Soualio revient sur les précautions à prendre.
La première précaution qu'il faut prendre, c'est de ne pas contaminer les autres. C'est une maladie virale. Tousser au creux du coude et se moucher dans des serviettes qu'il faut immédiatement jeter. Donc il faut éviter d'être dans des endroits confinés pour ne pas contaminer ses voisins.
Avant de terminer par ses conseils pratiques.
On ne se met pas à prendre des médicaments tels que les antibiotiques, faire de l'automédication, non. Et l'idéal, c'est de s'adresser à un médecin. Cela est vraiment possible, de faire un test PCR.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, on commémore ce jeudi les événements du 6 janvier 2021 au siège du Congrès américain à Washington. On s'attend à des déclarations du président Joe Biden. Un an après cet assaut du Capitole par les partisans de l'ancien président Trump qui espérait empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden à la présidentielle de 2020, des centaines de personnes attendent toujours leur procès pour leur rôle présumé dans l'assaut, tandis que 155 autres ont plaidé coupables. La correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, fait le point. Le récit est de Mohamedou Humfa.
Un an après, il y a toujours des zones d'ombre sur l'attaque du 6 janvier au Congrès des États-Unis. De nombreux partisans de l'ancien président Donald Trump minimisent l'affaire, tandis que d'autres Américains reprochent au président Trump d'avoir poussé ses partisans à saper le processus démocratique. Des émeutiers ont envahi les couloirs du Capitole, mettant en péril la sécurité du personnel et des législateurs qui se préparaient à certifier la victoire électorale de Joe Biden. Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants.
Je ne pardonnerai jamais à l'ancien président des États-Unis et à ses partisans ces brutes qu'il a envoyés au Capitole pour le traumatisme causé à notre personnel.
La Chambre des représentants avait rapidement mis en accusation Donald Trump, l'accusant d'incitation à l'insurrection, mais le Sénat américain l'a acquitté peu après. Fin juin, la Chambre des représentants a mis sur pied un comité spécial pour enquêter sur la responsabilité du président Trump. Le comité a assigné à comparaître plusieurs anciens responsables de la Maison-Blanche et le personnel de campagne de M. Trump pour qu'ils témoignent sur les jours qui ont précédé l'attaque. Ce comité devrait publier un rapport avant les élections de mi-mandat de novembre 2022, mais ses conclusions ne sont pas juridiquement contraignantes. Dans les tribunaux fédéraux, 704 personnes ont été inculpées pour des infractions allant de troubles à l'ordre public à des accusations plus graves comme la violence contre les forces de l'ordre et les médias. Entre 70 à 80 personnes font face à des accusations encore plus graves de complot. John Lewis, expert à l'université George Washington.
These are the hierarchical domestic violent extremist groups, the Proud Boys.
Ce sont les groupes extrémistes violents américains comme les Proud Boys, les Oath Keepers. Certains ne seraient pas simplement allés au Capitole pour suivre le discours et protester, mais étaient membres d'un complot organisé impliquant la collecte de fonds, la distribution des armes, l'attaque du Capitole et la dissimulation des armes à feu dans un hôtel de Virginie.
Cinq personnes sont mortes pendant l'émeute du 6 janvier. La question est toujours de savoir si ce chaos était spontané ou planifié par Donald Trump, le président de l'époque.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.